avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Pour l'Observatoire sociopolitique diocésain, nous accueillons ce mois-ci Louis-Jean de Barmont.
Le projet de loi confortant les principes républicains, dit projet de loi contre le séparatisme, présenté au Conseil des ministres le 9 décembre 2020, fait débat, polémique et crée des inquiétudes bien légitimes. Il faudrait remonter un petit peu à la genèse et au postulat de départ de cette loi, dont l'amorce a été, nous en souvenons malheureusement, l'assassinat du professeur d'histoire, géographie, Samuel Paty, survenu le 16 octobre 2020, et perpétré par un islamiste qui n'a pas supporté que le professeur puisse dialoguer avec ses élèves sur deux caricatures de Mahomet, figurant sur le très sulfureux journal Charlie Hebdo. Là est tout le drame, ce cours survenant dans le cadre d'un enseignement moral et civique portant sur la liberté d'expression. La chose étant dite, les pouvoirs publics ont manifesté dans leur ensemble la volonté commune de faire rire toute intrusion salafiste dans nos rangs, toute contre-société qui serait hostile à la République française. Mais c'est bien regrettable d'avoir attendu si longtemps, tant de vies perdues et de familles brisées, par une forme de sclérose politique, d'une politique du chiffre, frilosité démocratique sûrement, qui empêche peut-être à dessein les pouvoirs publics de prendre des mesures nécessaires, essentielles, vitales. Rappelons-le, la France est en guerre depuis des années et nous dénombrons depuis l'année 2012 et l'affaire Merah pas moins de 38 attentats exécutés par des groupuscules djihadistes sur le sol français, occasionnant la mort de 288 personnes, le dernier en date étant l'attentat de la basilique de Nice le 29 octobre 2020. Nous savons ô combien les chrétiens ont pâti de ces violences aveugles gagnées parfois sans raison. Oui, il serait temps, comme le veut la formule consacrée, d'appeler un chat, sans attendre la lancinante faucheuse des ennemis de la nation venue saccager l'édifice sacramentel d'une exception française. Le plafond de verre de la tolérance républicaine à la française a l'heure de se déliter. Il faut agir avec force et courage. L'équilibre est en branle. Notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'exprimer contre vents et marées devoir s'attaquer à l'islam politique en France. Propos qui sonnent comme une déclaration d'intention, nous laissant aujourd'hui dubitatif et circonspect en direction d'un projet qui ne porte pas vraiment son nom. Pourquoi ne pas avoir eu le courage, dans l'intitulé de ce projet, de mentionner ou de faire référence à l'islamisme? Comme nous l'exprime le sociologue Philippe Diribarne dans son analyse du Figaro du 2 février 2020. Les choses auraient pu être claires et l'identification de l'ennemi simple, l'islamisme, dont les deux courants principaux sont le salafisme et le wahhabisme. Nous y associons aussi volontiers le courant des frères musulmans, dont le but est de s'appuyer sur les institutions étatiques françaises afin, par ce levier et la tolérance dont elles font preuve à certains égards, pénétrer la sphère domestique, véritable cheval de Troie des extrémistes. Cet islam-là est l'ennemi de la République française, de la nation française, de la France, des Français. Nous en sommes aujourd'hui convaincus. Il existe aussi, pour ne pas tomber dans l'écueil des généralités, un islam modéré, prôné par le courant soufi, ou par la personne de Jadad Saïd, surnommé le Gandhi syrien, homme d'une grande sagesse, qui ne cesse de prêcher pour un islam non dogmatique, jugeant indispensable de trier dans la tradition coranique ce qui est indispensable de ce qui ne l'est plus. Viviana Schiavo, chercheuse à l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, dira à son sujet, dans le journal La Croix du 1er février 2021, que d'autres musulmans ont traité le sujet de la non-violence, mais c'est lui qui est allé le plus loin. Hélas, cette frange de l'islam non-violent semble la plus confidentielle encore aujourd'hui. Bien sûr, le projet de loi sur le séparatisme a fait bondir certains pays musulmans. Les imams de France, pour un grand nombre proches du président turc et financés par ce dernier, ne veulent pas signer en l'état la charte voulue par le gouvernement, afin d'être, comme l'a souligné le chef de l'État, Emmanuel Macron, un engagement net et précis en faveur de la République. Les différentes associations musulmanes, frontistes, arguant par un sophisme sibyllin le risque de cette charte de fragiliser les liens de confiance entre les musulmans de France et la nation. Mais l'État veut rester fort et éviter toute ingérence des pays étrangers dans sa politique intérieure, soumettant l'islam à une implacable vérité afin que les masques tombent, comme il se dit place Beauvau. D'autres musulmans ont du mal à se reconnaître aussi à travers la charte où se réalise la confusion du politique et du religieux dans l'islam et ne veulent pas souscrire à la formule suivante de Gérald Darmanin : la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Le gouvernement ne cesse de marcher sur les œufs. Le chef de l'État précise déjà en 2019 le profil de l'ennemi à travers son allocution du 25 avril. Les gens qui, au nom d'une religion, poursuivent un projet politique, celui d'un islam politique qui veut faire sécession avec notre République. Mais pour beaucoup, comme Philippe de Villiers, Frédéric Poisson et le même Philippe d'Iribarne, la lutte politique est consubstantielle à l'islamisme. Devons-nous préciser. Dernier ennemi de la République, de la France. Pour François Bellamy, du groupe politique Les Républicains, jamais la France ne réformera l'islam de France. C'est à l'islam de se réformer et c'est aux musulmans de se prononcer sur la conception du monde qu'ils veulent partager. Celui-ci de poursuivre, si l'on considère qu'il est intolérable de vivre dans un pays où il est possible de croiser une caricature du prophète, simplement, il ne faut pas vivre en France. C'est non négociable. La France est le pays de la liberté de conscience. Mais ce projet de loi engendre bien des dommages collatéraux, nous explique le sociologue Philippe d'Iribarne, car l'État dessine une volonté qui considère l'islam dans sa totalité comme une religion. Il est donc conduit à prendre des mesures concernant les religions en général, alors même que sa cible n'est pas religieuse. De ce fait, par souci de neutralité et pour éviter la stigmatisation, il impose des contraintes nouvelles de manière indiscriminée à des organisations religieuses, chrétiennes ou juives, qui n'entretiennent aucune visée séparatiste et sont de ce fait des victimes collatérales du projet. À défaut de stigmatiser donc une religion, on les stigmatise toutes. L'enjeu spirituel, la liberté spirituelle étant reléguée aux hégémonies. La conférence de l'Église de France, par son représentant l'évêque Éric de Moulin-Beaufort, exprime quelques réticences aussi aux conséquences de la loi, en affirmant que l'Église de France est favorable à la transparence financière présente dans l'article 10 du projet de loi et qui aura pour but d'obliger les associations de loi 1901 de déclarer annuellement le montant des sommes reçues et le nombre des récépissés envoyés aux contribuables. L'article 35, quant à lui, concerne les financements étrangers, obligeant à déclarer les sommes supérieures à 10 000 euros, avec un pouvoir d'opposition donné à l'autorité administrative. L'Église catholique de France s'y soumet depuis la querelle des inventaires de 1906. Cependant, Mgr de Moulin-Beaufort estime dans le Figaro du 1er février 2021 que pour acquérir des moyens nouveaux d'empêcher les islamistes radicaux de mener à bien leur projet, l'État multiplie les contrôles et organise une nouvelle mise sous tutelle des cultes. Le prélat de poursuivre, je m'inquiète de voir altérer de manière significative l'équilibre mis en place à partir de la loi de 1905. Et je m'inquiète aussi de l'accroissement considérable du pouvoir de la police administrative des préfets. La loi de 1905 est une loi de liberté. Elle risque, avec ce projet de loi, d'être transformée en une loi de contrôle de police et de répression. L'autorité administrative aura la possibilité de fermer des lieux de culte, un point épineux aussi et irrecevable pour les évêques de France. L'article de la loi concernant l'enseignement, pour reprendre les mots de l'évêque aussi, l'État ne peut prétendre à être le seul éducateur au détriment des droits des parents à choisir le mode d'instruction et du respect du caractère propre des organismes privés sous contrat. Dans le titre 1 de l'article 4 du projet de loi se trouvent les dispositions relatives à l'éducation et au sport, où il est fait mention d'une scolarisation qui devait être obligatoire et pourrait entraver par ce fait même le choix des familles désireuses de faire école à la maison. D'autres dispositions articulées entre sécurité et liberté sont ainsi présentées dans ce projet de loi et ont attrait à l'extension du principe de neutralité pour la fonction publique, le soutien aux maires de France afin que ces derniers ne sombrent pas face à des pressions d'ordre religieuse et donc le renforcement de la protection des fonctionnaires, la mise en place aussi d'un engagement républicain qui n'a pas encore dit son nom, auquel toute association subventionnée devra se soumettre. La transparence financière, nous l'avons vu plus haut, ainsi que la favorisation de l'intégration. La lutte contre la haine en ligne sera aussi l'un des chevals de bataille de cette nouvelle loi, pointant du doigt le séparatisme de certains réseaux sociaux. Sera aussi examinée la fermeture des mosquées radicales, point qui, selon les élus de l'opposition, n'est pas suffisamment offensif. D'ailleurs, les Républicains, face au ventre mou de La République En Marche, ont présenté aujourd'hui un contre-projet qui se veut complémentaire, mais choque aussi afin de réarmer l'état de droit, comme l'avaient proposé les sénateurs LR Philippe Bas et Bruno Retailleau, d'inscrire dans la Constitution le principe selon lequel nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la règle commune. De plus, les Républicains proposent également, pour lutter contre le séparatisme islamiste, des mesures fortes en matière d'immigration, comme l'allongement du temps passé sur le sol français de 5 à 10 ans pour obtenir la nationalité française, un plafond d'immigration annuel voté par le Parlement. Pour ne citer que ces deux mesures, d'autres solutions aussi ont été proposées, comme celle de confier à une nouvelle commission Stasi la rédaction d'un code de la laïcité. Damien Abad, patron des députés LR, d'abonder sur ce sujet. La droite ne peut se fondre dans le macronisme. Ce projet de loi risque aussi de mettre, vous l'avez compris, tous les cultes sur le même plan. Un point important à souligner, c'est le caractère loyal et exemplaire que certains cultes ont eu avec la République. Comme l'a souligné le rabbin de France, Haïm Korsia, rappelons-nous que depuis le toast d'Alger, la France catholique s'est adaptée et conduite de manière exemplaire avec les républiques successives, avec lesquelles il fallait s'accommoder, car c'est une prescription catéchétique qui nous le propose en ces mots. La diversité des régimes politiques est moralement admissible, pourvu qu'ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Les régimes dont la nature est contraire à la loi naturelle, à l'ordre public et aux droits fondamentaux des personnes ne peuvent réaliser le bien commun des nations auxquelles ils se sont imposés. Chacun a le droit d'en juger, eu égard aux différents projets de loi de notre régime. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Paolin, a lui-même exprimé ses réticences face à une loi susceptible d'engager des problématiques et de mettre à mal les fondements même de la loi de 1905. Le cardinal d'exprimer « Cette loi risquerait de mettre aussi un peu en discussion les équilibres qui se sont créés tout au long de ce siècle, depuis 1905. Un déséquilibre qui risque de toucher toutes les religions. » Alors oui, tout ce tremblement nous laisse sans voix, à croire que les distinctions opérées par la loi de 1905 sur la laïcité française a disparu comme neige au soleil et que l'égalité de forme, de fond et de principe semble vaciller. Car dans la loi de séparation de l'Église et de l'État, aucune forme de hiérarchisation ne vient corrompre cette collaboration du chacun chez soi. Si chez les chrétiens les fondements de la laïcité se retrouvent dans les paroles du Christ, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, principe d'égalité que le Christ lui-même reconnaît devant l'inaliénable dignité des hommes qui doivent être traités avec justice et équité, nous voyons que ce projet de loi s'éloigne du principe fondateur de notre civilisation. La phrase assassine du ministre de l'Intérieur affirmant que la République française ne pourrait plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu, n'a plus rien à voir avec 1905, mais peut-être avec une laïcité qui ne dit pas son nom, celle qu'Hannah Arendt avait déjà augurée dans son ouvrage « La crise de la culture », affirmant que la religion d'État pourrait se substituer au fondement du spirituel. Dans ce cas de projet de loi, ça en a tout l'air. La laïcité, nouvelle religion théocratique de la République française, pour le dire d'une manière polémique. De plus, comment serait-il possible que l'État puisse faire la pluie et le beau temps à l'intérieur même des différentes sensibilités morales qui animent l'humanité, valeurs qui sont pour les acteurs de ces morales essentielles à leur survie? La laïcité, comme étendard, va encore se muer dans un relativisme de façade et sombrer dans les déconvenues qu'on lui connaît, paradoxales et fabriquées. Car en voulant protéger la liberté de culte, elle s'érige en police toute puissante, elle devient la seule doctrine à avoir droit de citer et tente à faire taire les autres ou à les rendre invisibles, illégitimes, néfastes. Cette neutralité de l'État dans l'administration des religions de la loi de 1905, qu'Ernest Renan avait déjà souligné, dresse en quelque sorte le progrès utile pour l'organisation sociale. Il n'en sera plus qu'à si la loi sur le séparatisme comme telle est ratifiée. L'homme, tous les hommes ont besoin d'un horizon spirituel, ce qu'Emmanuel Macron avait eu l'air de comprendre dans son discours au Collège des Bernardins, et non d'une police de la pensée et des cœurs. Déjà qu'il faut s'accommoder bon an, mal an avec une police des cultes, la responsabilité morale incombe aux religions. Pour reprendre les mots du philosophe John Locke dans sa lettre à la tolérance, en matière religieuse, seule la vérité sauve. Espérons que par un jugement prudentiel, l'État en fasse de même.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.